J'adore apprendre avec Radio Okapi.
Oui, les enfants, bienvenue dans votre émission Bana Okapi Éducation.
Très heureux de vous savoir nombreux à suivre Bana Éducation, votre magazine consacré à l'enseignement à distance par la radio. C'est un programme dédié à tous les élèves de la République démocratique du Congo, particulièrement à tous les apprenants des rattrapages scolaires qui se trouvent dans les régions affectées par les conflits. Ce programme vous est proposé du lundi au vendredi entre 16h et 17h heure de Kinshasa, samedi de 9h à 11h et dimanche de 10h à 12h. Grâce Mvozolo, c'est moi à la présentation de ces magazines. Debs Vita assure la partie technique. Sarah Soumbela est à la réalisation. La coordination est assurée par Christian Mapendano sous la supervision de Jean-Marc Matwaki Mofelele Dijano. Chers apprenants, je vous dis bonjour. Voilà, chers apprenants, aujourd'hui nous parlons de l'aloe vera et de la fougère en botanique. Alors commençons notre leçon en parlant de l'aloe vera. L'aloe vera est une plante que l'on rencontre souvent dans les jardins, sur les fenêtres ou dans les champs des régions chaudes. Elle attire l'attention par ses feuilles épaisses, vertes et pointues. Mais derrière cette apparence simple, l'aloe vera cache des trésors. Elle soigne, embellit, nourrit et protège. Depuis l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs, les Arabes, et les Africains connaissaient déjà ses vertus. Les Égyptiens, par exemple, l'appelaient la plante de l'immortalité et l'utilisaient pour soigner les brûlures et purifier la peau. Aujourd'hui encore, elle est très appréciée dans le monde entier. Aussi, bien dans la médecine que dans les produits de beauté. L'aloe vera est une plante succulente, c'est-à-dire qu'elle stocke l'eau dans ses feuilles pour survivre dans les milieux secs. Dans cette leçon, chers apprenants, nous allons apprendre à connaître cette plante sous tous ses aspects. Son origine, par exemple, son milieu de vie, ses parties, sa reproduction, sa culture, son entretien, ses usages et son importance dans la vie de l'homme. L'aloe vera appartient donc à la famille des Liliacées. La même famille que l'oignon, de l'ail et du poireau. L'aloe vera est originaire du nord de l'Afrique, du Soudan et de la péninsule arabique. Elle s'est ensuite répandue dans d'autres régions chaudes du monde, les îles Canaries par exemple, Madagascar, l'Inde, le Mexique et ailleurs. Elle pousse naturellement dans les zones tropicales et semi-désertiques où les températures sont élevées et où il pleut peu. L'aloe vera préfère un climat chaud, sec et ensoleillé. Elle ne supporte pas la fraîcheur ni les sols gorgés d'eau. Elle préfère la température entre 20 degrés Celsius et 35 degrés Celsius. Un sol léger, sablonneux et bien drainé. Une exposition en plein soleil et peu d'arrosage, car la plante retient beaucoup d'eau. Dans plusieurs pays africains, on cultive l'aloe vera dans les champs, les pots ou les jardins familiaux, surtout pour ses vertus médicinales et décoratives. L'aloe vera possède un système racinaire fibreux et étalé. Les racines sont fines, peu profondes, mais elles sont brunes ou jaunâtres et assurent la fixation de la plante. Elles absorbent aussi l'eau et les sels minéraux nécessaires à la nutrition de la plante. La tige de l'aloe vera est courte et charnue, parfois presque invisible, car elle est recouverte par les feuilles. Elle se situe à la base de la rosette foliaire et sert des supports aux feuilles épaisses. Chez certaines variétés âgées, la tige peut s'allonger un peu. Elle contient des réserves nutritives et contribue à la croissance des nouvelles pousses. Les feuilles sont la partie la plus importante et la plus utilisée de l'aloe vera. Elles sont épaisses, charnues et remplies d'un gel transparent, lancéolé, c'est-à-dire en forme de lance, disposé en rosette autour des tiges, vert clair à vert grisâtre, parfois marbré des taches blanches et muni de petites dents molles sur les bords. Chaque feuille peut mesurer de 40 à 80 cm de long et jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Les feuilles contiennent deux substances principales qui sont 1. Les gels ou l'intérieur transparent qui est doux, visqueux, riche en vitamines et minéraux. Et 2. Les latex qui est juste sous l'écorce. Il est jaune, amer, aux propriétés laxatives. Lorsque la plante devient adulte après 3 à 4 ans, elle produit une hampe florale qui sort du centre de la rosette. Cette hampe peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. Les fleurs sont tubulaires, c'est-à-dire en forme de petits tubes, des couleurs jaune, orange ou rouge pâle, et regroupées en grappes au sommet de la happe. Ces fleurs attirent les abeilles et les insectes pollinisateurs. Elles contiennent du pollen et un peu de nectar. Après la floraison, l'aloe vera forme un fruit en capsule sèche. Cette capsule renferme plusieurs petites graines noires et plates. Lorsque les fruits mûrissent, il s'ouvre pour donner des nouvelles plantes, mais c'est un processus lent. L'aloe vera se reproduit de deux manières qui sont la reproduction par graines et la reproduction par rejet. La reproduction par graines s'est faite grâce aux fleurs fécondées qui produisent des graines, mais cette méthode est lente et rarement utilisée dans les cultures domestiques. Tandis que la reproduction par rejet, chers apprenants, c'est la méthode la plus courante. Des petites pousses appelées rejets naissent à la base de la plante mère. Ces rejets peuvent être séparés délicatement et replantés dans un autre endroit. Ils se développent rapidement et deviennent des plantes identiques à la plante d'origine. Cette méthode est simple, rapide et naturelle.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Poursuivons notre leçon sur l'aloe vera, chers élèves. L'aloe vera a besoin de beaucoup de lumière et de chaleur. Il faut un sol sablonneux, perméable, pas d'eau stagnante. Pour l'entretenir, il faut enlever les feuilles sèches ou abîmées. Éviter d'arroser les feuilles directement. Répiquer les rejets dans d'autres pots pour reproduire les jeunes plantes. Protéger la plante contre le froid et les insectes. Chers écoliers, vous devez savoir que les gels contenus dans les feuilles est très riche. Il renferme de l'eau, environ 98% ou 98%. Il contient également des minéraux, des vitamines A, B1, B2, B6, B12, C, E et j'en passe. Mais aussi des enzymes et acides aminés, des sucres naturels et des antioxydants. Tous ces éléments expliquent ces puissants effets sur la peau et la santé humaine. Sachez que l'aloe vera est une plante médicinale utilisée depuis longtemps pour ses nombreuses vertus. Elle soigne les brûlures légères et les plaies. Elle accélère la cicatrisation, elle soulage les piqûres d'insectes, elle calme les irritations et les démangeaisons, elle aide à la digestion lorsqu'il est consommé sous forme des jus purifiés et renforce les systèmes immunitaires. En Afrique, beaucoup de familles utilisent les gels d'aloe vera comme un remède naturel. Les gels d'aloe vera est très présent dans les produits de beauté. Il hydrate la peau en profondeur. Il nourrit les cheveux et empêche leur chute. Il rend la peau douce et fraîche. Il aide à lutter contre les boutons et les rides. On retrouve les gels dans les crèmes, savons, shampoings, lotions et masques de beauté. Chers apprenants, parlons à présent de l'usage alimentaire de l'aloe vera. Sachez que les jus d'aloe vera est consommé comme boisson rafraîchissante. On l'associe parfois à des fruits, par exemple l'ananas ou l'orange, pour améliorer les goûts. Son jus facilite la digestion. Le latex jaune doit être retiré ou enlevé avant toute consommation, car il peut être toxique. Sur les plans agricoles et décoratifs, vous devez savoir que l'aloe vera est cultivée comme une plante ornementale autour des maisons. Il protège les sols contre l'érosion, il décore les jardins et embellit les cours, mais aussi il résiste bien à la sécheresse, ce qui les rend utiles dans les régions arides. Chers écoliers, bien que l'aloe vera soit bénéfique, il faut l'utiliser avec soin. Évitez de boire les latex jaunes. Il faut toujours laver les gels avant de l'utiliser sur la peau. Ne pas en consommer sans purification et il faut toujours demander l'avis d'un adulte ou d'un médecin spécialiste avant tout usage interne.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Avant de boucler la première partie de notre leçon, chers amis, parlons d'abord de l'importance écologique, économique et sanitaire de l'aloe vera. 1. L'importance écologique. L'aloe vera est une plante résistante à la sécheresse. Elle nécessite peu d'eau, donc elle protège les ressources naturelles. Elle réduit la chaleur autour des maisons et empêche la dégradation du sol. 2. L'importance écologique. 2. L'importance économique. L'aloe vera est une source de revenus pour les cultivateurs. C'est une matière première pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. C'est un produit exporté vers de nombreux pays. Et 3. L'importance sanitaire. L'aloe vera soigne naturellement plusieurs infections de la peau. Elle aide à renforcer la santé du corps, facilite la digestion et renforce les défenses du corps humain. En résumé, retenez que l'aloe vera est une plante grasse appartenant à la famille des Liliacées. Elle est originaire d'Afrique et pousse dans les régions chaudes et sèches. Les feuilles épaisses contiennent un gel transparent et un latex jaune. Le gel est riche en vitamines et en minéraux, utilisés pour la santé et la beauté. L'aloe vera se reproduit par rejet, parfois par graines, et demande peu d'eau. C'est une plante utile à la fois pour l'homme, la nature et l'économie. L'aloe vera est une plante précieuse de l'humanité. Elle guérit, nourrit, embellit et protège. Elle prouve que la nature renferme des trésors pour notre bien-être. Vous, en tant qu'élève, vous devez apprendre à reconnaître cette plante, la cultiver avec soin et l'utiliser de manière responsable en respectant nos plantes médicinales comme l'aloe vera. Nous protégeons notre santé, notre environnement et notre avenir. Voilà, chers apprenants, c'est la fin de la première partie de notre leçon. On écoute cette chanson et on se retrouve juste après pour la suite.
Dans notre vie, il y a tant de choses qu'on voit sans les comprendre. Car le temps va son chemin, quels que soient nos desseins, sans nous attendre. Et pourtant tu verras, nous marcherons près de toi, quels que soient les caprices du destin. Comme les lions par millions, par le cœur ne font plus qu'un. Tous ensemble avec toi, nous sommes un.
Pourquoi ne pourrais-je pas
vient de commencer. Dans la peine ou la joie, rien sur terre ne nous vaincra. Nous sommes forts, ô combien nous sommes un.
J'aime ça comme à l'école quand j'apprends avec Radio Okapi.
Bienvenue à la deuxième partie de notre leçon, chers apprenants. Parlons à présent de la fougère. La fougère est une plante sans fleurs qui existe depuis très longtemps sur Terre. Les fougères font partie des plantes vasculaires. C'est-à-dire qu'elles possèdent des vaisseaux pour transporter l'eau et les nutriments, mais elles ne produisent pas des graines ni des fleurs. Elles se reproduisent par spores. Les spores sont des petites cellules qui ressemblent à des graines microscopiques, mais qui n'en sont pas. Les fougères poussent souvent dans les endroits humides et ombragés, sous les arbres, près des ruisseaux dans les forêts, parfois sur les rochers ou sur les murs humides. Elles donnent un aspect vert et frais au paysage. Chers élèves, parlons maintenant de la description et partie principale de la fougère. 1. Les rhizomes. Les rhizomes est une tige souterraine ou à ras du sol. Il produit des racines vertes, les bas, et des frondes ou feuilles vers les hauts. Les rhizomes servent à stocker des réserves et à permettre à la plante de se multiplier. 2. Les racines. Les racines prennent l'eau et les minéraux du sol. Elles sont souvent fines et nombreuses. 3. Les frondes ou feuilles. On appelle frondes la feuille de la fougère. Les frondes peuvent être simples ou composées. Une fronde composée a de nombreuses petites folioles. La fronde est souvent enroulée lorsqu'elle sort du sol. On parle de crochet ou crosse. C'est une forme en spirale. La face inférieure des frondes porte parfois des souris, c'est-à-dire groupes de petites capsules qui contiennent les spores. On distingue plusieurs espèces de fougères, par exemple 1. les fougères arborescentes, ce sont des fougères très grandes qui forment des troncs. Deux, les fougères terrestres qui poussent sur les sols. Trois, les fougères épiphytes qui poussent sur les branches des autres arbres sans pour autant les tuer. Quatre, les fougères aquatiques qui vivent dans l'eau ou les zones très humides. Et cinq, les fougères cultivées comme plantes d'intérieur. Et enfin, cinq, les fougères cultivées comme plantes d'intérieur et plusieurs autres types qu'on trouve dans la nature. Chers écoliers, sachez que les fougères préfèrent l'humidité, l'ombre et les sols riches en matière organique. Elles ont des adaptations comme des frondes qui évitent l'évaporation, rhizomes qui stockent l'eau et les nutriments. Certaines fougères supportent le soleil ou la sécheresse. D'autres demandent un environnement très humide. Elles améliorent la qualité du sol en enrichissant la matière organique. Elles protègent le sol contre l'érosion. Elles servent d'habitat et de nourriture à des petits animaux et insectes. Elles participent à l'humidification des forêts. Parlons à présent des usages des fougères, chers amis. 1. L'usage ornemental. Beaucoup de fougères sont plantées dans les jardins et parcelles. 2. La protection du sol. Elles sont parfois utilisées pour stabiliser des pentes du sol. 3. L'alimentation et remèdes. Dans certaines cultures, quelques fougères jeunes ou les crochets se consomment après préparation. Attention, chers amis, toutes les fougères ne sont pas comestibles. Et 4. L'artisanat. Certaines tiges servent pour les pailles ou comme matière première. Chers apprenants, pour cultiver des fougères à l'école ou à la maison, il faut choisir un pot ou un endroit ombragé, utiliser un sol riche en humus et bien drainé. Cela signifie qu'il faut choisir une terre, des jardins, plus du compost. Il faut arroser régulièrement pour maintenir une humidité constante sans inonder. Il faut également protéger du soleil brillant. La plupart des fougères aiment la lumière diffuse. Diviser les rhizomes pour multiplier la plante. Séparer des petites pousses et les replanter. Et fertiliser légèrement avec du compost chaque saison. En résumé, chers amis, sachez que la fougère est une plante sans fleurs qui se reproduit par spores. Elle alterne entre deux formes qui sont la forme sporophyte et la forme gamétophyte. La forme sporophyte ou la plante visible et la forme gamétophyte ou la petite structure qui produit les gamètes. Elle aime l'humidité et l'ombre et l'ombrage. Ses parties principales sont rhizomes, racines, frondes et souris. Les fougères sont importantes pour l'écologie, l'ornementation et parfois l'alimentation locale. La fougère est une plante ancienne et fascinante. En étudiant la fougère, on comprend mieux comment certaines plantes se reproduisent sans fleurs ni graines et l'importance
l'importance de l'eau pour leur cycle de vie. Les fougères apportent de la fraîcheur et de la vie aux forêts et aux jardins. Apprenons à les observer, les protéger et les utiliser avec respect. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon du jour. Merci infiniment pour votre attention particulière. À présent, prenez vos cahiers d'exercice. Nous passons aux exercices d'application. Numéro 1. L'aloe vera est A. Une pierre précieuse. B. Un animal marin. C. Une plante médicinale. D. Un animal domestique. Et aucune bonne réponse. L'aloe vera est A. Une pierre précieuse. B. Un animal marin. C. Une plante médicinale. D. Un animal domestique. Et aucune bonne réponse. Choisis la bonne assertion. Numéro 2. Les feuilles de l'aloe vera sont A. Rondes et dures. B. Épaisses et remplies de gel. C. Fines et sèches. D. Allongées. Et en forme triangulaire. L'aloe vera. Les feuilles de l'aloe vera sont. A. Rondes et dures. B. Épaisses et remplies de gel. C. Fines et sèches. D. Allongées. Et en forme triangulaire. Choisis la bonne réponse. Numéro 3. Les gels d'aloe vera servent à A. Soigner la peau et la plaie. B. Teindre les vêtements. C. Nourrir les animaux. D. Soigner la carie dentaire. Et fabriquer les habits. Les gels d'aloe vera servent à A. Soigner la peau et la plaie. B. Teindre les vêtements. C. Nourrir les animaux. D. Soigner la carie dentaire. Et fabriquer les habits. Choisis l'assertion correcte. Numéro 4. L'aloe vera pousse surtout dans les régions. L'aloe vera pousse surtout dans les régions A. Froide. B. Neigeuse. C. Humide. D. Chaude et sèche. Et équatoriale. L'aloe vera pousse surtout dans les régions A. Froide. B. Neigeuse. C. Humide. D. Chaude et sèche. Et équatoriale. Choisis la bonne assertion. Numéro 5. Quelle est la couleur des fleurs de l'aloe vera? Quelle est la couleur des fleurs de l'aloe vera? Quelle est la couleur des fleurs de l'aloe vera? A. Jaune ou orangé. B. Bleu. C. Rouge. D. Blanche. Et noir. Quelle est la couleur des fleurs de l'aloe vera? A. Jaune ou orangé. B. Bleu. C. Rouge. D. Blanche. Et noir. Choisis la bonne réponse. Numéro 6. La fougère se reproduit grâce à... La fougère se reproduit grâce à... A. Des graines. B. Des feuilles. C. Des spores. D. Des fruits. Et des fleurs. La fougère se reproduit grâce à... A. Des graines. B. Des feuilles. C. Des spores. D. Des fruits. Et des fleurs. Choisis la bonne insertion. Numéro 7. Où trouve-t-on souvent les fougères? Où trouve-t-on souvent les fougères? Où trouve-t-on souvent les fougères? A. Dans les déserts. B. Sur les montagnes. C. Dans l'eau. D. Dans les endroits humides et ombragés. Et dans la forêt. Où trouve-t-on souvent les fougères? A. Dans les déserts. B. Sur les montagnes. C. Dans l'eau. D. Dans les endroits humides et ombragés. Et dans la forêt. Choisis l'assertion convenable. Voilà, chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre leçon de séjour. Nous vous remercions pour votre attention particulière. Bonne chance à toutes et à tous.
Merci.